La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. En 1694, à la naissance de Voltaire, il reste encore à Louis XIV pas moins de 21 ans de règne. Racine, lui, a encore 5 ans à vivre et La Bruyère 2. Et quand Voltaire meurt en 1778, doté de 84 ans et de 84 maladies, comme il aimait à le dire, eh bien Voltaire est contemporain de Napoléon depuis déjà 9 années. Si bien on le voit qu'il a fait le pont entre deux Frances très différentes et qu'il a d'ailleurs été l'un des acteurs du changement du pays, nous allons voir de quelle manière au cours de cette série d'émissions en 4 épisodes. Voltaire est en effet l'un des inventeurs d'une manière de s'engager dans le débat public qui sera celle des intellectuels, même si ce terme ne date que de la fin du 19e siècle et de l'affaire Dreyfus, ainsi que nous le dira Richard Flamaine en point d'orgue de notre série. Nous reviendrons aussi avec lui sur les années de Voltaire à Ferney, dans un cadre aussi champêtre qu'industrieux. L'épisode 3, il sera consacré à l'encyclopédiste, l'homme des Lumières et le défenseur des victimes de l'obscurantiste. Nous serons en compagnie d'Olivier Ferré. Enfin, dans l'épisode 2, c'est de l'œuvre en général dont il sera question, avec une attention particulière portée à son célèbre conte Candide. Nous serons pour ce faire avec Christophe Martin. Et aujourd'hui, bien aujourd'hui, pour notre émission biographique du lundi, nous sommes en compagnie de François Jacob, auteur du folio biographique consacré à Voltaire aux éditions Gallimard. On lui doit également un Voltaire à l'opéra, édité en 2011 chez Classique Garnier, où il participe également à l'édition de son théâtre en 5 volumes. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
Nous avons rendez-vous ce soir avec Voltaire. Voltaire, chapeau bas, nous lui devons tous quelque chose. Il semblerait que ce grand homme diabolique se soit proposé d'être un objet de dégoût, de haine et de mépris, et toutes les ressources de son intelligence, tous les attraits de son génie, il paraît les avoir mis en œuvre pour y parvenir. Il n'y a pas de méchanceté qu'il n'ait écrite, ou qu'il n'ait faite, ou qu'il n'ait dite. J'emploie le mot méchanceté pour parler couramment, pour avoir l'air de partager l'opinion générale. Or, ayant dit méchanceté, ayant dit le dégoût, la haine et le mépris qu'il inspirait à ceux qui le jugeaient jadis et qui le jugent encore inconsidérément, j'ai hâte d'ajouter que cette haine et ce mépris étaient bien peu de choses en regard de son mépris à lui, de son dégoût à lui et de sa haine à lui pour la sottise humaine. Cruel, sceptique, aigri, maussade et parfois sans pitié, pestant, rageant et blasphémant, tel fut ce philosophe, assez peu philosophe pour regarder la vie avec indifférence.
Une causerie de Sacha Guitry pour entamer cette émission. Bonjour à vous, François Jacob.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à distance. Alors, vous vous êtes attaqué à la vie de Voltaire. C'est se frotter tout de même à une personnalité hors du commun que nous décrivait à l'instant Sacha Guitry, un caractère énergique, parfois susceptible, mais en tout cas, on peut dire qu'il ne laissait jamais indifférent.
Il n'a laissé personne indifférent et il tranche un petit peu avec les autres philosophes des Lumières, pour aller vite, avec Rousseau, avec Diderot. D'abord parce qu'il a une génération de plus, vous le disiez en introduction, il est né sous le règne de Louis XIV. Il a donc 18 ans de
plus. Ça change quelque chose, ça, c'est important.
Que Jean-Jacques Rousseau. C'est important pour deux raisons. D'abord, Voltaire, contrairement à ses jeunes collègues, appelons-les ainsi philosophes, est un homme de l'Ancien Régime. C'est un homme du XVIIIe siècle, mais qui est mort véritablement une génération avant le début de la Révolution. Et il faut donc repenser la vie et l'œuvre de Voltaire sous cet angle historique de l'Ancien Régime. Et puis la deuxième raison, vous en parlerez je pense avec Olivier Ferré notamment, c'est l'angle religieux. Voltaire a combattu les religions révélées durant toute son existence. C'est ce qui fait le moteur de sa philosophie, c'est ce qui fait le moteur de sa vie, c'est ce qui le rend également très amusant aujourd'hui.
Et puis, ses idées sont encore et toujours portées en étendard. En étendard, il reste un symbole pour beaucoup de monde.
Il reste un symbole, mais on peut se demander si le symbole est le bon. Par exemple, je voyais, lors des événements tragiques qui ont ensanglanté la France récemment, des pancartes de manifestants appelant à relire le traité sur la tolérance. Je me demande s'il ne faudrait pas plutôt relire le dictionnaire philosophique qui semble bien plus en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui.
Pourquoi ?
D'abord, parce que la matière même du fanatisme y est traitée, parce que Voltaire s'y interroge de manière beaucoup plus approfondie sur les tenants et les aboutissants de cette mécanique infernale qui organise ce qu'il appelle la lutte contre l'infâme, et que le traité sur la tolérance, par ailleurs, est un texte qui nécessite, pour être compris, d'être parfaitement contextualisé. Il s'agit de l'affaire Callas, dont on imagine très bien qu'elle trouverait aujourd'hui très peu de rapport avec les événements contemporains.
Bon, alors on aura l'occasion de parler plus profondément de tout cela cette semaine. Revenons avec vous, François Jacob, sur les 80 ans de vie de Voltaire. C'est une vie exceptionnellement longue pour l'époque.
Alors 84
Oui, je me suis trompé, c'est bien ce qu'il y avait pourtant d'indiquer sur ma feuille. 84, est-ce qu'on sait exactement d'ailleurs si c'est peut-être 83? Parce que quelle est sa date de naissance? Elle est incertaine.
Ah, c'est tout un problème, car sa date de naissance, effectivement, est double, si j'ose dire. Il a été baptisé le 22 novembre 1694, à l'église Saint-André-des-Arts, mais il pourrait être né également en février. Alors, est-il né en février? Est-il né en novembre? Il y a là deux possibilités. Les biographes qui se sont succédés, qui sont au nombre d'une trentaine à peu près, n'ont pas pu trancher. Mais cela n'a évidemment guère d'importance, si ce n'est que, s'il est né en février, pourquoi a-t-il été baptisé simplement en novembre? Voilà la question qui se pose. Je pense donc, et c'est ce qui a modifié, c'est ce qui a justifié, pardon, l'organisation de l'anniversaire de sa naissance en 1944, après la Libération, je pense qu'il est né en novembre.
Mmh. Mais il y a quand même un certain nombre de points plus ou moins aveugles concernant sa naissance, par exemple sa paternité. Alors, est-ce qu'on connaît vraiment le père de Voltaire ?
Il en a deux, si j'ose dire. Trois, avec le père éternel, encore que celui-là, il le reniera un peu plus tard. Le premier, c'est son père officiel, François Arouet, qui d'abord était notaire, qui ensuite est devenu receveur à la Cour des comptes, qui est donc issu d'une bourgeoisie tout à fait traditionnelle, la bourgeoisie parisienne de l'époque. Mais Voltaire, évidemment, se contente bien peu d'une naissance aussi obscure, et il développe, oserons-nous dire un fantasme, tout au moins une fable, qui est celle d'avoir été conçue par un noble, Claude Guérin de Rochebrune, ce qui va faire frémir d'indignation certains membres de sa famille. Comment il ose penser que sa mère a pu fauter avec un jeune hobereau? Il y a cette ambiguïté, il y a cette incertitude relative qui, en soi, n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est qu'elle nous permet d'instaurer tout de suite une forme d'imaginaire particulière chez Voltaire qui joue avec les titres toute sa vie.
Est-ce que c'est une forme de vanité que cette espèce d'invention comme ça d'une ascendance plus prestigieuse?
Je ne pense pas que ce soit vaniteux, ça tient du jeu, si vous voulez. Il faut, pour lire Voltaire, pour comprendre Voltaire, se souvenir toujours qu'il joue constamment. Il joue avec ses origines, il joue avec ses idées, il joue avec ses partenaires, avec ses interlocuteurs, il joue avec lui-même et il se joue de lui-même. Et donc finalement, il ne cessera durant sa vie, on le voit à la manière dont il publie ses œuvres, par exemple, on le voit à la manière dont il s'invente un pseudonyme, il ne cessera de jeter le doute ici et là, et c'est au creux de ce doute, c'est par l'articulation provoquée par ce doute qu'il va construire son œuvre.
Et oui, il joue en effet avec son nom de Arouet. Il est devenu Voltaire. C'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus enlevé. Et puis, comme le disait Casanova, Voltaire n'aurait pas pu aller à l'immortalité avec le nom de Arouet. On lui aurait interdit l'entrée du temple, lui fermant les portes au nez. Lui-même se serait avili, s'entendant toujours appeler Arouet en deux mots. C'est la raison, selon vous, du choix de ce pseudonyme ?
Assurément, c'est une des raisons. Arouet, la roue et le supplice infamant de l'époque, dont il parlera d'ailleurs beaucoup plus tard, lorsqu'il défendra Jean Calas, lorsqu'il tentera de réhabiliter la mémoire de Calas. Il y a d'autres raisons, je pense. Il y a d'abord la volonté de se faire un nom, de se distinguer de sa famille d'origine. Il y a également un jeu sur son nom, puisque Voltaire, le pseudonyme qu'il va se construire en 1718, alors qu'il est âgé de 24 ans, pourrait être, et je le mets au conditionnel, pourrait être l'anagramme de Arouet le jeune, Arouet LJ, le J et le I étant la même lettre. Il y a donc, vous voyez, encore un jeu de lettres, en quelque sorte, avec son nom, Voltaire ne cesse de jouer.
Des œuvres sur France Culture. Voltaire est donc issu d'une famille bourgeoise, vous l'avez dit, François Jacob, une famille bourgeoise du Haut-Poitou. Le père de Voltaire a acheté une étude de notaire à Paris en 1675. Il s'est marié 8 ans plus tard avec Marie-Marguerite d'Aumard, qui lui a donné 5 enfants, et donc François-Marie, c'est le petit dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres frères et sœurs? Alors il y a deux frères qui sont morts en bas âge. Il y a un autre frère, Armand, qu'il n'aimait pas beaucoup. Celui-là.
Pas du tout, c'est le fameux frère janséniste, celui qui va lui chanter pouille, pour utiliser une expression de l'époque. Armand est né en 1685, il a donc 9 ans de plus que Voltaire. Il y a une espèce de droit d'aînesse, appelons-le ainsi, qui s'opère dans l'esprit, et Voltaire va vraiment être rejeté par ce frère et le rejeter lui-même. Mais entre Armand et lui-même, il y a une sœur qui est quand même très importante.
Marguerite Catherine.
Exactement. Je vois que vous la connaissez bien, c'est Marguerite Catherine. La future Madame Mignot, qui, elle, est née en 1686, donc elle est vraiment presque contemporaine d'Armand, hein, ils n'ont qu'un an d'écart, et qui va mettre au monde 2 enfants qui compteront énormément dans la vie de Voltaire, d'abord l'abbé Mignot, celui qu'on appellera l'abbé Mignot, et ensuite la future Madame
Denis, qui a son importance évidemment dans la vie de Voltaire.
Voilà, qui a une importance. Alors il y avait également un autre enfant, je crois, qui s'appelait Robert, qui est mort en couche, enfin qui est mort à la naissance, pardon, un peu plus tard, entre Marguerite Catherine et François-Marie.
Voilà, on dira tout à l'heure comment Madame Denis, donc la nièce de François-Marie Arouet, a été aussi sa maîtresse. Donc on sait que le petit Voltaire n'avait que 7 ans quand sa mère est morte. Sa mère, c'était une femme de goût qui cultivait les lettres et qui fréquentait par exemple Boileau, et aussi la femme de lettres Ninon de L'Enclos. Ça va être un petit peu important aussi dans l'éducation de Voltaire, cette fréquentation de sa mère, de Ninon de L'Enclos. François Jacob.
Sa mère était une femme très cultivée, effectivement, qui fréquentait un certain nombre de gens de lettres de l'époque. Vous avez effectivement cité Boileau. Il y avait Ninon de L'Enclos. La rencontre de Voltaire et de Ninon de L'Enclos va d'ailleurs alimenter les chroniques dans les différentes biographies. On raconte que Ninon de L'Enclos, qui est alors très âgée, hein, elle va mourir quelques mois plus tard après cette rencontre, offre à Voltaire une somme d'argent pour qu'il aille s'acheter des livres, par exemple. Il y a là tout un imaginaire qui se construit à partir de cette rencontre initiale avec Ninon de L'Enclos.
puis il y a d'autres noms qu'il faudrait citer rapidement. L'abbé Nicolas Guédouin, je ne sais pas si on prononce d'ailleurs de cette manière-là.
Alors on prononce différemment, Guédouin, Gédouin, enfin là vous pouvez, suivant les endroits où vous allez, avoir différentes prononciations.
En tout cas, c'est lui qui le fait rentrer au collège Louis-le-Grand, c'est le plus grand établissement jésuite de Paris. 7 années d'études là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment-là de la vie de Voltaire, du futur Voltaire ?
C'est un moment essentiel que celui du passage de Voltaire au collège Louis-le-Grand, d'abord parce qu'il y rencontre un certain nombre de personnages, et j'utilise le terme à dessein, qui compteront beaucoup durant sa vie. Des camarades de collège, d'abord. Le collège Louis-le-Grand est en effet fréquenté par la haute aristocratie, et donc le calcul du père de Voltaire, c'était de lui faire côtoyer des gens qui seraient susceptibles plus tard de lui venir en aide, de lui porter secours, de l'aider à faire carrière. Il rencontre par exemple les frères d'Argenson, qui effectivement seront tout à fait importants dans sa vie. Il rencontre le futur abbé d'Olivet, et qui sera un de ses amis, et qui pour l'heure était ce qu'on appelle préfet cubiculaire. Il rencontre le père Toulier. Je n'insiste pas. Il y a une deuxième chose, ce sont les maîtres qui sont ceux du collège Louis-le-Grand, les pères jésuites qu'il fréquente et qui vont véritablement le façonner sur le plan intellectuel.
Oui, parce qu'ils sont curieux de tout, ils s'intéressent à la Chine, ils s'intéressent aussi au théâtre par exemple, et ça c'est important.
Surtout au théâtre, le père Porré, qui était l'un des maîtres de rhétorique, proposait à sa classe, et Voltaire était présent, d'écrire des vers sur la mort de Néron, par exemple. C'est d'ailleurs la seule composition de Voltaire qui nous soit parvenue et qui soit actuellement conservée à la Bibliothèque nationale. Il y avait également le père Tournemine, qui a beaucoup compté. Le théâtre était, si vous voulez, une manière de concilier l'étude des lettres et l'entrée dans la vie en société. C'était donc une articulation très importante entre la vie recluse du collège et l'ouverture sur la cité.
Alors il sait déjà qu'il veut devenir un grand poète dans les grands genres, mais évidemment son père n'est pas tellement d'accord, et lui il imagine, évidemment c'est lui-même un avoué, que son fils devrait plutôt faire son droit.
Ah, c'est hélas très fréquent dans toutes les familles de juristes. Le père est notaire, il a été receveur à la Cour des comptes, il traite d'épices, il veut donc que Voltaire fasse son droit. Et Voltaire passe son temps dans les salons, par exemple dans le salon de Madame de Mimeur, à la rue des Saints-Pères, ou dans celui de Madame de Ferriole. Bref, et il a même de très mauvaises fréquentations, Voltaire. Vous savez qu'il fréquente la Société du Temple, avec des poètes tout à fait suspects comme Chaulieu, l'abbé Courtin, l'abbé Servien, je n'insiste pas. Donc, le père de Voltaire voudrait qu'il fasse son droit. Mais comment l'obliger à faire son droit et l'obliger également à quitter ses endroits de débauche ou susceptibles de le conforter dans ses idées d'homme des lettres? Eh bien, on l'envoie en province. On l'envoie à Caen pour faire son droit. Évidemment, ça ne marche pas, puisqu'il y a un salon littéraire à Caen, c'est celui de Madame d'Osseville, et ce qui s'était produit à Paris se reproduit naturellement à Caen, et donc Voltaire est tout à fait réfractaire à l'idée de faire du droit.
Donc on peut parler d'un fils indocile, et finalement ce qui l'intéresse, ce sont les salons, donc impossible d'en faire un apprenti avocat, comme son père tente de le faire chez Maître Alain, où il va rencontrer quand même un certain nombre de gens qui resteront ses amis. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt la cour de Sceaux. Alors j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu de ce moment de la cour de Sceaux, et puis nous dire ce que c'est que cette espèce de petit Versailles, ce Versailles bis ou Versailles concurrent.
La cour de Sceaux, c'est le domaine de la duchesse du Maine. Le duc du Maine, c'était le bâtard de Louis XIV qu'il avait eu avec Madame de Montespan. Et la duchesse du Maine va organiser dans la cour de Sceaux, enfin à Sceaux, une cour avec des divertissements tout à fait importants et en grande quantité. On parlera des nuits de Sceaux, d'ailleurs.
Les nuits blanches, même.
Oh bah, toujours, bien sûr. Les poètes, les écrivains de l'époque, les gens de lettres sont invités à venir proposer des épigrammes, des charades, des bourrimées, des extraits de tragédies, de comédies, on fait la fête, on tire des feux d'artifice, bref, il y a là une atmosphère tout à fait festive. Mais cette atmosphère festive est également, et cela va évidemment être très dangereux, cela inquiète le père de Voltaire, être une atmosphère propice à la conspiration politique. C'est en effet au sein de cette cour de Sceaux que va naître une conspiration contre le régent Philippe d'Orléans.
En Bastille pour un pamphlet, dont je ne suis pas l'auteur.
Écrivez. Date et lieu de naissance.
Alors, né à Paris le 20 février 1694.
Au nom, prénom et surnom.
Harway, François-Marie. Et même à ce propos, puis-je vous demander d'être inscrit sous un faux nom, par égard pour mon père?
J'y consens volontiers. Vous prenez pour pseudonyme?
Voltaire. Oui, mon nom de Harway risquerait d'acquérir une assez fâcheuse notoriété due à l'aventure qui m'arrive. Donc, à dater d'aujourd'hui, je deviens inconnu. Sous le nom de Voltaire.
Soit. Conduisez Monsieur de Voltaire à la cellule numéro 20.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Extrait du film « Si Paris » nous était conté par Sacha Guitry. Alors évidemment, cette belle époque de fête de la cour de Sceaux prend fin avec la mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 et quand le régent Philippe d'Orléans va prendre le pouvoir, parce que le jeune Voltaire va avoir quelques problèmes avec ce régent, notamment à cause de son poème « La Ligue » qui va donc lui valoir près d'un an de prison. Qu'est-ce qu'il disait ce poème qui a tant agacé le régent François Jacob ?
Ça n'est pas la Ligue, en fait, c'est le Regnante Puero qui va lui causer des problèmes. Le Regnante Puero, c'est un texte qui, dans lequel Voltaire, ou celui qui l'a écrit, car Voltaire nie en avoir été l'auteur, bien entendu, au départ, accuse le régent de relations incestueuses avec sa fille. Vous imaginez, quand même, c'est assez curieux.
C'est une accusation grave.
C'est une accusation grave, mais très amusante, si vous me passez l'expression, lorsqu'on connaît l'ensemble de la vie de Voltaire, puisque lui-même sera accusé d'avoir une relation incestueuse avec sa nièce, Madame Denis. Mais enfin
accusé, c'est-à-dire qu'il l'a eu, cette relation incestueuse avec sa nièce, non ?
Oui, bien sûr, mais enfin, le régent a sans doute une relation du même ordre avec sa fille, mais enfin, peu importe. Toujours est-il que ce poème, évidemment, qui court dans les rues de Paris, ne plaît pas du tout au régent. On trouve ce Voltaire décidément tout à fait insolent et on l'envoie passer quelques mois à la Bastille.
Alors qu'est-ce que ça change pour lui ? Parce que quand même, ça ne doit pas être un petit événement de passer un an, même si c'est un peu dans un quartier, entre guillemets, VIP, dans une prison comme ça à la Bastille.
Ce qui change, c'est le temps qu'il va y passer. C'est-à-dire que Voltaire, au départ, n'est pas très effrayé de passer quelques temps à la Bastille. Effectivement, vous le disiez, ça n'est pas si terrible. Mais cela va durer tout de même plusieurs mois, presque une année. Et là, il y a beaucoup de soucis à se faire, d'autant plus que Voltaire avait mis en chantier une tragédie sur laquelle il comptait beaucoup pour se faire un nom dans la société parisienne, sa tragédie d'Œdipe, et qu'il fallait qu'il fût en rapport avec les comédiens, avec toutes celles et tous ceux qui étaient susceptibles de produire sa pièce. Il fallait donc qu'il sorte d'une manière ou d'une autre, il lui fallait retrouver la vie parisienne.
Et c'est ce qu'il réussit à faire, puisque le jeune roi Louis XV, âgé de 8 ans, l'aurait fait remettre en liberté. Bon, on imagine que c'est plutôt le duc d'Orléans qui l'a fait remettre en liberté. Et là, il va pouvoir, du coup, s'intéresser et mettre en œuvre cette tragédie Œdipe, et qui va faire de lui l'un des petits rois de Paris, entre guillemets, un petit roi symbolique, petit roi de la culture.
Oui, tout à fait, car la pièce est créée en novembre 1718, il a donc 24 ans, et au théâtre de la rue des Fossés-Saint-Germain. Et il va y avoir un succès considérable. C'est une pièce qui va, selon les commentateurs de l'époque, renouveler complètement la tragédie. On respire enfin. Voilà enfin une pièce qui nous sauve de tout ce que nous avons connu ces dernières années. Et on espère beaucoup de ce jeune homme, qui est certes un peu turbulent, mais qui écrit tout à fait, de manière tout à fait remarquable.
On écoute un extrait de cette pièce Œdipe.
Que de vos pleurs la source se dissipe. Vous ne verrez donc plus l'inconsolable Œdipe. C'en est fait, j'ai régné, vous n'avez plus d'époux. En cessant d'être roi, je cesse d'être à vous. Je pars. Je vais chercher dans ma douleur mortelle des pays où ma main ne soit point criminelle. Et vivant loin de vous, sans état, mais en roi, justifiez les pleurs que vous versez pour moi. Finissez vos regrets et retenez vos larmes. Vous plaignez mon exil, il a pour moi des charmes. Ma fuite à vos malheurs assure un prompt secours. En perdant votre roi, vous conservez vos jours. Du sort de tout ce peuple, il est temps que j'ordonne. J'ai sauvé cet empire en arrivant au trône, j'en descendrai du moins comme j'y suis monté. Ma gloire me suivra dans mon adversité. Mon destin fut toujours de vous rendre la vie. Je quitte mes enfants, mon trône, ma patrie. Écoutez-moi du moins pour la dernière fois, puisqu'il vous faut un roi. Consultez-en mon choix.
De l'acte 4 de l'Œdipe de Voltaire, où Œdipe fait ses adieux à Jocaste dans une interprétation en 1994 par la troupe du France. Et pourquoi ce sujet? Pourquoi s'intéresser à Œdipe, qui a déjà été mise en scène, portée sur la scène par d'illustres prédécesseurs? Est-ce que vous avez l'intuition de la raison qui fait qu'il s'intéresse en particulier à cette histoire?
C'est justement, comme vous le disiez à l'instant, parce que Œdipe a déjà été traité par des prédécesseurs.
Donc il se mesure notamment à Corneille, par exemple.
Exactement. Il se mesure à Corneille et la pièce intervient donc dans un contexte également qui est celui de la querelle des anciens et des modernes. Il s'agit de se mesurer à Corneille, mais également à Sophocle. Et les lettres sur Œdipe que Voltaire va publier en 1719, au moment où il publie la pièce, après le Triomphe, nous disent très clairement que telle était son intention. Il s'agissait de renouveler complètement la tragédie à travers le traitement particulier de ce thème connu de tous.
Et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on joue davantage Œdipe de Corneille ou de Sophocle que celui de Voltaire.
Oui, bien entendu, la pièce de Voltaire nous semble aujourd'hui assez conventionnelle, même si il est vrai qu'elle elle développe un certain nombre d'aspects tout à fait nouveaux. Par exemple, Voltaire traite de manière particulière la question du cœur, qu'il réduit à un coryphée, à un personnage qui n'intervient qu'à quelques endroits de la pièce, alors que le cœur intervient de manière beaucoup plus soutenue chez ses prédécesseurs. Mais Œdipe nous paraît une pièce un petit peu surannée aujourd'hui. C'est également parce que Voltaire, dans son approche du théâtre, a beaucoup progressé lui-même. Mm-hmm. Les pièces qui suivront dans les décennies futures, Zahir, Sémiramis, Tancrède, iront beaucoup plus loin sur le plan dramaturgique.
Mais aujourd'hui, c'est quand même le philosophe et l'auteur de contes que l'on connaît le plus, alors que ça n'est pas ce pourquoi il pensait rester dans la postérité.
Ah mais c'est de notre postérité contemporaine que vous parlez, parce que jusqu'en 1930 à peu près, Voltaire était très connu comme dramaturge. Songez que Zahir, pour prendre cet exemple, a été joué à de très nombreuses reprises sur la scène de la Comédie française jusqu'en 1936. Et puis il s'est passé quelque chose dans les années 30-40 à peu près, et qui a fait que, au retour de la Deuxième Guerre mondiale, c'est effectivement cette image du philosophe et du conteur qui a prévalu. Mais il n'est pas dit que d'ici 20 ans ou 30 ans, le dramaturge revienne sur le devant de la scène.
Et comment vous expliquez-vous que la société actuelle s'intéresse à cette part-là de l'œuvre de Voltaire et plus tellement à ses pièces de théâtre ?
Oh, il y a plusieurs réponses possibles. La société peut avoir besoin du discours voltairien tel qu'il se développe dans le dictionnaire philosophique, dans les questions sur l'encyclopédie ou le traité sur la tolérance. Il peut se faire aussi que l'histoire du théâtre ou le développement du théâtre fait qu'on s'intéresse moins à des œuvres qui ont un texte fort, comme c'est le cas chez Voltaire, la perte également du contact avec l'alexandrin, c'est peut-être une raison. Il y a là toute une étude à faire qui serait passionnante. Mais nous rééditons le théâtre de Voltaire en espérant qu'il sera joué. Et la Comédie française a d'ailleurs procédé à des lectures de Sémiramis récemment au château de Ferney et au Louvre. C'est de bon augure.
En tous les cas, vous dites, François Jacob, que la carrière de Voltaire est véritablement lancée ce vendredi 18 novembre 1718 avec la première d'Œdipe sur la scène du français, enfin de la comédie française, rue des Fossés Saint-Germain. Et ça ne va pas, évidemment, ce succès sans un certain nombre de problèmes, sans un certain nombre de résistances. Et on peut dire qu'on commence déjà à lui mettre des bâtons dans les roues. Il faut dire qu'il est très visible. Alors, ça doit attiser, peut-être pas les jalousies, quoique, mais en tout cas, un certain agacement.
Oui, il y a un agacement et des jalousies, vous avez raison. Il y a beaucoup d'auteurs qui souhaiteraient avoir le même succès sur la scène du français et qui n'y arrivent pas. Donc, on le parodie, on le critique. On attend de lui d'autres pièces tout aussi considérables, et évidemment les pièces qui suivent sont beaucoup moins propices à un succès pareil. Bref, il vit deux années difficiles après le succès d'Œdipe.
Et puis il y a aussi, dans ces années-là, peut-être un petit peu après, La Petite Vérole, qui va être une épreuve pour lui, et puis un certain nombre de morts, la mort de son père aussi en 1722, une autre mort peut-être plus joyeuse pour lui, si l'on peut dire, évidemment, si l'on peut dire cela, d'un mort, c'est celle du régent. C'est une bonne nouvelle quand même pour lui, en 1722 également, François Jacob.
Je ne sais pas si la mort du régent est une bonne nouvelle. Je pense qu'elle l'a laissé plutôt indifférent, car il avait réglé ses différends avec le régent, et le régent d'ailleurs n'avait plus le pouvoir qu'il avait lorsqu'il a été embastillé une première fois. Plus inquiétante, vous avez raison, est la petite vérole qu'il a contractée en 1723, alors qu'il était chez le président de maison, et il nous raconte de manière tout à fait amusée la manière dont un médecin l'a guéri. C'était le médecin du cardinal de Rohan, hein, qui s'appelait Monsieur de Gervasie, et qui lui fait boire 200 pintes de limonade. Oui. Donc 200 pintes, ce sont des dizaines de litres, enfin c'est tout à fait considérable.
Apparemment ça a bien fonctionné en tous les cas, peut-être qu'il faudrait se remettre à boire de la limonade quand on a des problèmes de vérole.
Oui, mais la vérole, heureusement, enfin la petite vérole, la variole donc, a disparu il y a 80 ans maintenant, a été enfin éradiqué, mais c'était peut-être une solution. Toujours est-il qu'il va s'en sortir et renaître à la vie.
Regrettera qui veut le bon vieux temps et l'âge d'or et le règne d'Astrée et les beaux jours de Saturne et de Ré et le jardin de nos premiers parents. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge tant décrié par nos tristes frondeurs. Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse. Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. Tout honnête homme a de tels sentiments. Oh, le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. Voyez-vous pas ces agiles vaisseaux qui, du Texel, de Londres, de Bordeaux, s'en vont chercher par un heureux échange de nouveaux biens nés aux sources du Gange, tandis qu'au loin, vainqueurs des musulmans, nos vins de France enivrent les sultans? Quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, ne connaissant ni le tien ni le mien. Qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien. Ils étaient nus, mais c'est chose très claire que qui n'a rien n'a nul partage à faire. Sobres étaient. Ah, je le crois encore, Martialeau n'est point du siècle d'or. D'un bon vin frais ou la mousse ou la sève ne gratta point le triste gosier d'Ève. La soie et l'or ne brillaient point chez eux. Admirez-vous pour cela nos aïeux? Il leur manquait l'industrie et l'aisance. Est-ce vertu? C'était pure ignorance. Quel idiot, s'il avait eu pour l'or quelque bon lit, aurait couché dehors? le paradis terrestre est où je suis.
Lu par Guillaume Gallienne. Il s'agit d'un poème philosophique qui est un peu postérieur à la période dont on parle, mais qui est un autoportrait de Voltaire à cette période des succès, même un autoportrait de toute sa vie, parce que Voltaire, François Jacob, c'est vraiment l'homme du XVIIIe siècle, d'une certaine modernité, l'homme du luxe, mais aussi, dit-il, de la mollesse, pour qui le superflu est nécessaire. En quoi, finalement, est-ce cela qui le caractérise d'abord, François Jacob ?
Ce qui le caractérise, c'est son sens des réalités économiques. Le luxe, par exemple, est important pour lui parce qu'il comprend très rapidement qu'il fait partie qu'il est nécessaire pour que le circuit économique fonctionne. La très grande habileté de Voltaire avec le maniement de l'argent est arrivée au moment de la banqueroute de Laff, ce banquier écossais qui avait été recruté par le régent pour améliorer les finances du royaume. Voltaire n'y participe pas. Il comprend qu'il y a là quelque chose qui ne marchera pas.
Donc contrairement à beaucoup, beaucoup de gens qui ont été ruinés dans cette affaire.
Tout à fait. Et il comprend que l'argent doit circuler, c'est un libéral avant l'heure, hein, osons le mot, même si le mot n'est pas doté des mêmes propriétés à l'époque qu'aujourd'hui, et il comprend que l'argent doit circuler, doit nourrir un certain nombre de commerçants. Il faut donc, par le luxe par exemple, entretenir cette circulation continuelle de la monnaie.
Donc c'est vraiment pas du tout l'artiste retiré dans sa tour d'ivoire, c'est bien le contraire de ça, c'est quelqu'un qui cherche justement à faire fortune et qui y arrivera d'ailleurs, j'espère qu'on aura le temps de raconter comment il fait fortune d'une façon assez étonnante, allez peut-être disons-le tout de suite, grâce à la loterie.
Oui, c'est assez amusant puisqu'effectivement une loterie avait été organisée pour alimenter les finances du royaume, mais la personne qui l'avait faite s'y était très très mal pris, de telle sorte que Voltaire et quelques-uns de ses amis, parmi lesquels d'ailleurs le fameux mathématicien Lacondamine, ont réalisé qu'en achetant tous les billets, ils étaient certains de gagner environ 1 million par mois. Ce qu'ils ont fait, naturellement, et même si vous êtes plusieurs, 1 million par mois, eh bien vous arrivez quand même à un matelas financier
oui,
ça, assez confortable.
C'était plus que ce qu'il fallait pour acheter, en effet, tous les billets. Donc il y a quand même un sens de la spéculation chez lui, un sens du commerce aussi, parce que il va vendre du blé d'Afrique du Nord en Italie ou en Espagne, investir dans le commerce avec l'Amérique depuis Cadix. Plus tard, il va s'engager aussi auprès des frères Paris dans la fourniture aux armées de fourrage, de draps, de vivres. Donc c'est un commerçant quand même.
C'est un commerçant, mais encore une fois, l'argent pour lui, ou le maniement de l'argent, c'est d'abord un jeu. Certes, le jeu est d'importance puisqu'il s'agit d'assurer sa subsistance, mais il y a véritablement une dimension ludique à ce maniement de l'argent, à ses prêts sur gage, à ses rentes sur l'hôtel de ville de Paris, hein, c'était la fameuse loterie de Le Pelletier d'Effort. Il joue également avec des actions à Nancy, il se fait lorrain avec un faux document pour essayer de toucher les actions en question. Bref, c'est un jeu continuel et je pense que c'est sous cet angle qu'il faut regarder le rapport de Voltaire à l'argent.
Alors il faut reparler d'une seconde chute de Voltaire après son premier enfermement à la Bastille, parce que son succès, évidemment, cause quelques désagréments, et trois personnages vont lui faire boire le calice jusqu'à la lie. C'est d'abord son ami Thieriot, puis un deuxième mauvais ange, pourrait-on dire, de Voltaire, l'abbé Desfontaines, et un troisième, le chevalier de Rohan Chabot. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en gros, ce qui est arrivé à ce moment-là à Voltaire ?
Oui, c'est le chevalier de Rohan qui est le plus important, enfin celui dont l'action aura les conséquences les plus considérables, puisque le chevalier de Rohan et Voltaire ont échangé des mots qui sont reportés, d'ailleurs qui sont rapportés par un certain nombre de biographes. On ne sait pas très bien finalement ce qui s'est dit, mais peu importe. Le chevalier de Rohan tend donc une embuscade. Alors que Voltaire est invité à dîner chez le duc de Sully, on l'appelle dehors, et trois ou quatre valets du chevalier de Rohan se mettent à lui adresser une bastonnade, un peu comme on en rencontre dans les comédies de Molière. Et là, c'est chez Voltaire une prise de conscience. Parce qu'il retourne chez le duc de Sully, il se plaint, il pense que ses amis nobles vont intercéder en sa faveur, vont punir le chevalier de Rohan. Eh bien, pas du tout. On lui dit, écoutez, mon pauvre Voltaire, c'est bien triste, mais enfin, que voulez-vous, sous-entendu, vous n'êtes qu'un roturier, on ne peut rien faire. Il y a là. Et là, Voltaire comprend, prend conscience du fossé qui le sépare encore, même s'il avait été jadis le condisciple d'un certain nombre de ces gens qui sont titrés et qui étaient avec lui au collège Jouvet-le-Grand. Il comprend vraiment le fossé qui existe dans l'Ancien Régime entre les nobles et les non-nobles. Et
à partir de là, alors il va y avoir l'exil en Angleterre, et puis après l'exil un peu de Paris, c'est-à-dire qu'il ne reviendra à Paris qu'à la fin de sa vie, et encore un petit peu, mais il ne sera plus vraiment parisien, il ne sera plus intégré à cette société-là. Est-ce qu'on peut dire cela, François Jacob ?
Oui, il restera quelques années à Paris quand même après son retour d'Angleterre en 1728. Il va donc rester quelques années à Paris et il va ensuite, après avoir connu Madame du Châtelet en 1733, il va surtout vivre à Cirey d'abord. Ensuite, après la mort de Madame du Châtelet, il ira en Prusse et puis ce seront les années d'exil assez abondantes quand même, d'abord à Genève et ensuite à Ferney.
Donc ça en fait vraiment un Européen, un cosmopolite.
Un cosmopolite également parce qu'il a été très tôt initié à la langue anglaise. Voltaire a même écrit une œuvre en anglais, Letters Concerning the English Nation, vous me pardonnerez cet accent terrible. Voltaire a écrit en anglais, il maîtrise parfaitement l'italien, il maîtrise le latin, il a donc une capacité linguistique qui lui permet d'être efficace dans toute l'Europe.
Il est influencé par l'Angleterre, le régime peut-être plus libéral en Angleterre qu'il rencontre aussi en Hollande. Enfin, il y a le Nord, il y a la pensée du Nord aussi chez Voltaire.
Oui, avec quand même une toute petite nuance. Il y a la pensée du Nord, il y a le système politique de l'Angleterre qui le tente beaucoup, bien entendu, mais il y a l'enseignement de Boerhaave qu'il va rencontrer en Hollande, de Sgravesande également, qu'il rencontre pendant plusieurs jours, mais il en tire simplement ce qui est nécessaire à son propre système, au système philosophique qu'il est en train de mettre en place. Un certain nombre d'éléments seront repris d'ailleurs plus tard dans sa vie lorsqu'il critiquera le système judiciaire français. Il se référera au système judiciaire qu'il a connu en Angleterre. Il va prendre également en Angleterre un certain nombre d'éléments dramaturgiques dans le théâtre de Shakespeare qu'il voit jouer sur la scène de Drury Lane.
C'est d'ailleurs comme ça, paraît-il, qu'il aurait appris l'anglais en prenant les notes du souffleur.
Oh, c'est très vraisemblable. Apprendre l'anglais au théâtre est une excellente idée.
Oui. Est-ce que ça a été un espion ? On a dit ça aussi. Vous y croyez ?
Un très mauvais espion, puisque il a effectivement été chargé par Louis XV d'une mission auprès de Frédéric II, et il était tellement bon espion que tout Paris était au courant quelques heures seulement après qu'il a été mandaté. Donc vous voyez, Voltaire n'est pas James Bond.
C'est l'espion le plus bavard que la Terre ait jamais porté.
Tout à fait.
Un mot sur Swift aussi, qu'il a rencontré, l'auteur de Gulliver. On peut peut-être retrouver un petit peu de cet écrivain, justement dans les contes de la fin de la vie de Voltaire. Est-ce que c'est votre avis, François Jacob ?
Oui, je pense que Gulliver et que la rencontre de Swift d'ailleurs a été importante. Ils sont restés très amis pendant plusieurs mois, se voyant pratiquement tous les jours. Gulliver a eu une importance certaine dans l'œuvre de Voltaire. Il n'est que de songer en 1752 à Micromégas. Il n'est que de songer également à certains emprunts qu'il a faits au monde de Swift. Et puis il y a tout l'esprit, je dirais, libertin sur le plan religieux de Jonathan Swift. Il y a tout l'esprit caustique, il y a tout cet humour profond de Swift qu'on retrouve chez Voltaire. Il y a donc vraiment quelque chose à creuser dans la relation de Swift et de Voltaire, oui.
On me calomnie, on m'accable, on me déchire. Jamais vous n'aurez plus de mérite à me défendre. Les dévots me damnent, les sots me critiquent. Les politiques me parlent de lettres de cachet. Le tout pour avoir dit des vérités fort innocentes. Je pardonne à ces vils insectes, à ces misérables prétendus beaux esprits qui déchirent tout haut des ouvrages qu'ils approuvent tout bas et qui font semblant de mépriser ce qu'ils envient. Mais je ne puis pardonner à ces calomniateurs de profession qui attaquent la personne encore plus cruellement que les ouvrages. C'est contre le bourdonnement de ces frelons que je vous demande votre secours, ma gentille abeille du Parnasse.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et oui, Voltaire a toujours eu des ennemis, comme il le disait dans cette lettre à François-Augustin de Moncrif en mai 1734. Et la lecture était de Jean Topard. Alors il écrit cette lettre alors qu'il est au château de Ciré. On a parlé de ce château déjà avec vous, François Jacob. On n'a pas dit avec qui il y était. Avec la marquise du Châtelet, c'est d'ailleurs son château. Et la marquise du Châtelet, eh bien, c'est peut-être la femme qui a le plus compté pour Voltaire.
Oui, assurément, la marquise du Châtelet, c'est le grand amour de sa vie. C'est la femme qui a le plus compté pour lui, avec ensuite Madame Denis, mais de manière très, très différente. C'est une complicité d'abord physique, ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Ensuite, après que la passion s'est calmée, une complicité intellectuelle de tous les instants, complicité qui s'étend à des domaines littéraires, scientifiques, bref.
Elle-même est une scientifique, alors peut-on dire de renom ?
C'est une scientifique véritable. D'ailleurs, la dispersion récente des manuscrits de Madame du Châtelet a pu montrer l'ampleur de ses connaissances dans le domaine scientifique. C'est une femme tout à fait exceptionnelle. Voltaire l'avait compris très rapidement. Mais c'est une femme dont la réputation a peut-être été un tout petit peu voilée, entachée par le caractère très excentrique et quelquefois épouvantable qu'elle a montré dans ses relations sociales.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle avait des colères tout à fait impressionnantes qui ont été décrites par certaines de ses amies, si j'ose dire, avec beaucoup de guillemets. Madame de Graffigny, par exemple, elle entre dans des colères folles et elle est tout à fait excessive à la fois dans ses comportements amoureux, dans ses exigences avec ses différents partenaires, qu'il s'agisse de partenaires amoureux ou de partenaires intellectuels. Bref, c'est une femme difficile sur le plan humain, mais sans doute une des femmes les plus brillantes, les plus intelligentes et les plus savantes de son siècle.
Voilà, et puis un tempérament volcanique qui n'est pas sans rappeler peut-être celui de Voltaire. En tous les cas, c'est une période des plus heureuses de sa vie, celle dans ce château délabré sur les frontières de la Champagne et de la Lorraine, comme Voltaire le raconte dans ses mémoires, où il peut donc conjuguer finalement les plaisirs du corps et ceux de l'esprit, mais ça ne va pas durer toujours. Et il y aura d'ailleurs la mort de Madame du Châtelet qui va être pour Voltaire un événement absolument extrêmement difficile à vivre. Je voudrais qu'on avance du coup encore un petit peu plus vite pour arriver à l'épisode du rapport avec Frédéric II. On peut peut-être d'ailleurs à ce sujet écouter une lettre envoyée justement à ce roi de Prusse par Voltaire.
Monseigneur, quand j'ai reçu le nouveau bienfait dont votre Altesse royale m'a honoré, j'ai songé aussitôt à lui payer quelques nouveaux tributs. Car quand le prince enrichit ses sujets, il faut bien que leurs taxes augmentent. Mais, monseigneur, je ne pourrai jamais vous rendre ce que je dois à vos bontés. Le dernier fruit de votre loisir est l'ouvrage d'un vrai sage, qui est fort au-dessus des philosophes. Votre esprit sait d'autant mieux douter qu'il sait mieux approfondir. Rien n'est plus vrai, monseigneur, que nous sommes dans ce monde sous la direction d'une puissance aussi invisible que forte, à peu près comme des poulets qu'on a mis en mue pour un certain temps, pour les mettre à la broche ensuite, et qui ne comprendront jamais par quel caprice le cuisinier les fait ainsi encager. Je parie que si ces poulets raisonnent et font un système sur leur cage, aucun ne devinera que c'est pour être mangé qu'on les a mis là. Votre Altesse royale se moque avec raison des animaux à deux pieds qui pensent savoir tout. Il n'y a qu'un bonnet d'âne à mettre sur la tête d'un savant qui croit savoir bien ce que c'est que la dureté, la cohérence, le ressort, l'électricité, ce qui produit les germes, les sentiments, la faim, ce qui fait digérer, enfin, qui croit connaître la matière et qui pisait l'esprit. Il y a certainement des connaissances accordées à l'homme. Nous savons mesurer, calculer, peser, jusqu'à un certain point. Je prends la liberté d'envoyer à votre Altesse royale mon système du plaisir. Je ne suis point sceptique sur cette matière, car depuis que je suis à Cirey et que votre Altesse royale m'honore de ses bontés, je crois le plaisir démontré. Je m'étonne que parmi tant de démonstrations alambiquées de l'existence de Dieu, on ne se soit pas avisé d'apporter le plaisir en preuve. Car physiquement parlant, le plaisir est divin.
Qu'est-ce qui vous frappe, François Jacob, dans cet extrait de lettre de juin 1738 à Frédéric II et lui-ci par Georges Clès?
C'est le ton, bien entendu, le ton des premiers échanges de Voltaire et de Frédéric II est un ton tout à fait proche d'une correspondance amoureuse. Et d'ailleurs, Émilie du Châtelet craignait beaucoup l'influence de Frédéric sur Voltaire. Elle craignait que Voltaire aille en Prusse. Elle a tout fait pour qu'il reste à Paris.
C'était presque un concurrent pour elle ?
Oh, pas presque. C'était un concurrent, car la complicité intellectuelle qui était celle d'Émilie du Châtelet et de Voltaire pouvait tout à fait être concurrencée par le prestige du monarque accueillant Voltaire à sa table.
Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement pour Frédéric II? Je crois qu'au départ, il lui demande de travailler sur son anti-Machiavel, sur un essai.
Frédéric II a un très grand nombre d'écrits à sa disposition. Il écrit en français, d'abord des poèmes que Voltaire corrige, ça ne lui plaît pas beaucoup, mais enfin il le fait. Et puis il y a effectivement cette anti-Machiavel, cette réfutation de Machiavel, qui au moment d'être imprimée en Hollande, eh bien finalement Frédéric II décide que non, il ne veut pas que ce texte soit publié. Il demande donc à Voltaire d'intervenir auprès des libraires hollandais pour en supprimer la publication. Mais c'est trop tard, Voltaire va modifier le texte, il y a tout un échange entre eux, et finalement, ce texte va être donc une espèce d'œuvre commune, si l'on veut, entre les deux.
Alors combien d'années va-t-il aussi rester en Prusse, parce qu'il va partir pour être chambellan du roi de Prusse? Est-ce que c'est important d'ailleurs, ou est-ce que c'est une anecdote finalement?
Alors en fait, ce n'est pas si important, mais l'image est forte. Il va en Prusse effectivement en 1750, il en reviendra en 53, donc il y reste finalement en gros 3 ans, et la fin, vous le savez, va être tout à fait terrible, hein, puisqu'il sera détenu à Francfort.
Parce qu'il est parti avec les manuscrits justement du roi. C'est pas bien de faire ça.
Mais il ne fallait pas lui dire, maintenant tout le monde va le savoir. Oui, il est parti avec quelques manuscrits, effectivement, que Frédéric veut lui réclamer. Il charge donc le baron von Freytag à Francfort de les récupérer, mais celui-ci est un petit peu trop zélé. Madame Denis arrive à la rescousse. On accuse un certain nombre d'officiers d'avoir voulu attenter à sa pudeur. Bref, c'est une histoire tout à fait rocambolesque. Et finalement, Voltaire quitte le royaume de Prusse. Il conservera néanmoins avec Frédéric des rapports amicaux jusqu'à sa mort, puisque l'une des toutes dernières lettres reçues par Voltaire est une lettre de Frédéric en 1778.
Donc c'est une vie, on l'entend tout de même, assez rocambolesque et extraordinaire. Quand il revient de Prusse, il ne rentre pas en France, il va d'abord aller à Genève, où il achète une maison qu'il va nommer Les Délices. D'ailleurs, vous avez signé l'avant-propos de l'ouvrage Voltaire aux Délices, le pouvoir de l'espérance, de Gérard Gruska, paru à la Ligne d'Ombre en 2017, je le signale au passage. C'est cette année-là aussi, l'année du retour, 1756, qu'il écrit Le tremblement de terre de Lisbonne, qui lui fera rédiger le poème sur le désastre de Lisbonne, suite, pardonnez-moi, au tremblement de terre dans cette ville. C'est aussi un texte extrêmement célèbre. Alors, c'est célèbre à cause de la polémique avec Rousseau, mais c'est aussi célèbre pour son humanisme, François Jacob.
Le poème est célèbre parce qu'il va, en quelques 240 vers, rappeler la question, une question philosophique qui était tout à fait essentielle, c'est la question du mal. Qu'est-ce que le mal ? Le mal, quelle est l'origine du mal ? Le mal est-il nécessaire dans notre vie ? Comment faire pour éviter de souffrir ? Et quelle consolation le mal présent sur Terre peut-il recevoir ?
Mmh. Oui, parce que Lisbonne est une ville considérée comme étant très religieuse, et pourtant elle paye un tribut absolument énorme à ce tremblement de terre. Donc comment Dieu pourrait-il finalement expliquer cela, justifier cela ?
Et c'est toute la question qui va alimenter le premier dialogue philosophique, si l'on veut, entre Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, puisque le 18 août 1756... alors que Voltaire est au délice avec d'Alembert, d'Alembert est venu au délice pour demander à Voltaire des conseils pour la rédaction de son article Genève de l'Encyclopédie, eh bien Rousseau écrit une longue lettre à Voltaire dans laquelle il lui dit qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions auxquelles il a abouti dans le poème sur le désastre de Lisbonne.
Et pourquoi ?
Eh bien parce que pour Rousseau, si je schématise un petit peu rapidement, la question du mal n'est pas une question métaphysique. La question du mal, c'est une question qui importe d'abord aux hommes eux-mêmes. Par exemple, s'il y a eu tant de morts à Lisbonne, n'était-ce pas parce que les hommes s'étaient concentrés, avaient concentré leurs habitats dans cette ville, de manière tout à fait contraire à ce qui aurait dû prévaloir dans l'ordre de la nature ? S'ils s'étaient dispersés, il y aurait eu nécessairement moins de morts. Bref, vous le voyez, il y a là une discussion qui s'engage et qui montre que Voltaire et Rousseau n'opèrent pas sur le même plan.
Alors on parlera de Ferney dans le quatrième épisode de cette série. Je passe donc très vite. Simplement un slogan que vous pourriez commenter, puisque nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, c'est « écraser l'infâme ». Alors dans beaucoup de lettres de sa vieillesse, Voltaire va utiliser ce slogan. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi le répète-t-il autant ?
S'il y a un slogan effectivement important pour Voltaire, s'il y a une phrase à retenir, s'il fallait retenir une phrase de toute l'œuvre de Voltaire, ce serait peut-être celle-ci. Écraser l'infâme, éclinf d'ailleurs, qu'il schématise à la fin de ses lettres. Il s'agit de lutter contre toutes les spoliations, contre toutes les exagérations, contre toutes les horreurs des religions, et en particulier des trois religions révélées que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, contre lesquelles Voltaire se bat toute sa vie. Il faut lutter contre le fanatisme, contre toutes sortes de fanatismes. C'est cela, écraser l'infâme.
Quelques retours à Paris, quelques mois de retour à Paris, et Voltaire s'éteint. Il reste à la postérité de façon très éclatante. La fête révolutionnaire le proclame et puis il est transféré au Panthéon. Il est devenu un mythe aujourd'hui.
Il est devenu un mythe, mais peut-être s'agirait-il de le recontextualiser pour ne pas perdre contact avec lui. Il faut vraiment comprendre que Voltaire est d'abord un homme du XVIIIe siècle. Il faut donc le replacer dans son siècle pour qu'il puisse nous parler au nôtre aujourd'hui.
Merci beaucoup François Jacob. Il y a évidemment beaucoup encore à raconter sur la vie de Voltaire qu'on a fait en réalité. Qu'est-ce qui sait ? On s'en rend compte à la lecture de votre biographie. Elle a paru aux éditions Gallimard dans la collection de poche Folio Biographie. C'était La Compagnie des œuvres, une émission d'Anne-Vanessa Prévost, de Didier Pinault, de Laurence Millet, de Laurence Genepin, de Romain Billet et de Laurie Vachon. Ce soir à 20h30, Les Fictions sur France Culture, c'est toujours Il était un piano noir, le livre de Barbara qui a été adapté pour la radio.